L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Huitième émission, la Révolution française. La France du XVIIIe siècle est considérée comme un modèle d'absolutisme. Le roi soleil est l'image même de ce que représente un monarque absolu, comme le prouve son portrait officiel peint par Hyacinthe Rigaud en 1701, où l'on voit tous les symboles du pouvoir entre ses mains. La couronne, qui le place au sommet du royaume, l'épée qui en fait un chef de guerre, le collier avec l'insigne de l'ordre du Saint-Esprit qui le place à la tête de la noblesse, la main de la justice qui lui confère une puissance inégalée dans le domaine judiciaire. Comme le disait Montesquieu, cette concentration des pouvoirs entraîne forcément la tyrannie. La France de cette époque est une France sans liberté. Pas de liberté religieuse, puisque depuis 1685, le catholicisme est religion d'État. Le protestantisme est à peine toléré. Pas de liberté d'expression, de pensée à l'image des multiples censures. Pas de liberté individuelle, puisque des lettres de cachet peuvent provoquer l'enfermement de n'importe qui dans l'une des prisons d'État, comme la Bastille ou la prison de Vincennes. En plus, pour rappel, le roi a le pouvoir d'interrompre le cours de la justice. Pas de liberté politique non plus, puisque les États généraux ne sont plus du tout réunis depuis 1614.
Cette société française, totalement soumise à l'autorité royale, est théoriquement toujours figée en trois ordres, caste sociale étanche définie par la naissance. Pour rappel, nous parlons ici de la noblesse, du clergé, du tiers-État. Les deux premiers représentent des ordres privilégiés, mais ne représentent que 500 000 individus sur les plus de 25 millions d'habitants qui vivent en France à la fin du XVIIIe siècle. Le troisième ordre regroupe donc tous les exclus de la vie politique. Ce sont les laboratores qui regroupent de manière confuse à la fois les bourgeois, les ouvriers et les paysans. C'est eux qui sont censés produire les richesses et la nourriture. C'est aussi sur eux que pèse tout le poids des impôts. La taille, l'impôt routurier, la capitation, les vingtièmes, les traites, la gabelle et tous les impôts indirects reposent sur leurs épaules et sont les seules recettes de l'État. La dîme enrichit encore chaque année l'Église d'environ 120 millions de livres. Et encore, ce n'est pas tout. Les paysans doivent en plus supporter d'autres charges féodales héritées du Moyen-Âge, aveux, droits de mutation et de succession, main morte, les banalités, les péages et surtout des corvées qui continuent encore d'exister.
À la fin du XVIIIe siècle, nous en sommes donc là, et la colère gronde. Louis XVI est bien dans la continuité de ses ancêtres puisqu'il continue d'exercer ce pouvoir de droit divin, même si son caractère est peut-être pas aussi fort que celui de ses aïeux. Après tout, n'a-t-il pas encore déclaré en 1787 devant son parlement « C'est légal parce que je le veux ». Cette exaspération populaire face à cette intransigeance royale suffit-elle à expliquer l'explosion de l'ancien régime de 1789 ? Qu'est-ce qui a fait que la révolution se déclenche à ce moment précis ? Et puis, surtout, comment expliquer l'immense instabilité politique qui suit, puisque ce n'est pas moins de 6 régimes fort différents qui vont se succéder en 15 ans ?
Pour comprendre ce qui s'est passé pendant cette période qui paraît si confuse, nous expliquerons dans l'émission d'aujourd'hui pourquoi la fin du XVIIIe siècle a réuni toute la poudre nécessaire à l'explosion de l'été 1789 en France, feu qui s'est ensuite propagé pour embraser l'Europe entière. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Nous allons voir dans cette première partie de la Révolution française les causes de cette révolution. Alors Raphaël, nous avons vu un peu la structure de la société française et la colère qu'elle a pu engendrer au fil des siècles. Mais pourquoi commence-t-on à percevoir un esprit révolutionnaire à ce moment-là ?
Alors tout cela, c'est le résultat d'un travail de fond des philosophes, scientifiques, intellectuels du mouvement d'idées et lumières que tout le monde connaît bien. Si on devait en donner une définition de ce mouvement, on dirait qu'il s'agit alors d'un mouvement pluridisciplinaire qui veut libérer l'homme de tout ce qui peut l'empêcher de penser ou d'agir selon sa raison. Il défend la tolérance, le progrès, le bonheur, la liberté de penser et de s'exprimer. Les Lumières sont très actifs à partir des années 1750 et leurs idées se diffusent progressivement dans toute l'Europe via des publications, dont la plus célèbre est celle de l'Encyclopédie. On peut encore citer des revues scientifiques qui rayonnent grâce à l'ouverture d'académies ou d'universités dans les plus grandes villes du continent. Les principaux philosophes qui contribuent à la construction de nouvelles idées politiques, comme Montesquieu, Voltaire ou Rousseau, prônent l'égalité des droits, la lutte contre les privilèges, la souveraineté nationale, la représentativité du peuple dans la prise de décision. Bref, ils dénoncent ce qu'est l'absolutisme.
Mais comment elles réagissent, les autorités? Est-ce qu'elles laissent passer de telles idées?
Au contraire, et tout cela est très très mal reçu. L'encyclopédie, par exemple, va recevoir de nombreuses censures, comme l'atteste cet arrêté du Parlement du roi, qui date du 7 février 1752.
Je cite « Sa Majesté a reconnu que dans ces deux volumes, on a affecté d'insérer plusieurs maximes tendant à détruire l'autorité royale, à établir l'esprit d'indépendance et de révolte et, sous des termes obscurs et équivoques, à élever les fondements de l'erreur, l'hérésie, de la corruption, des mœurs, de l'irreligion et de l'incrédulité. »
Oui, voilà, donc ce qui est intéressant de relever ici, c'est que c'est vrai que les idées les plus radicales des révolutionnaires des années 1790 sont allées précisément dans le sens que craignait alors Louis XV et son conseil 40 ans auparavant.
Alors donc, ces idées ont trouvé leur public en France ?
Pas immédiatement. Bien sûr, ces idées novatrices sont tout de même lues sous le manteau du fait de la censure, mais ces auteurs subissent les foudres des autorités. La plupart des grands philosophes français sont en plus de la censure poussés à l'exil. Prenons par exemple le cas bien connu de Voltaire, qui passa un long séjour en Prusse auprès du roi Frédéric II. Mais lorsque les deux hommes se fâchent, il revient en France en 1754, mais le roi lui interdit de revenir jusqu'à Paris. Il a donc passé les 20 années suivantes dans le château de Ferney, sur la frontière franco-suisse. Et Voltaire, c'est pas un cas isolé. Diderot a voyagé jusqu'à la Russie de Catherine II, Rousseau, lui, a arpenté tous les cantons de Suisse. Et paradoxalement, ces voyages, qui sont faits dans toute l'Europe, permettent à ces idées des Lumières de se diffuser partout sur le continent.
Donc certes, les idées de ces philosophes se diffusent partout, mais on parle là d'ouvrages écrits, de contes philosophiques, de théories politiques complexes qui ne sont pas accessibles à tout un chacun. D'autant plus que la société reste pour une large part analphabète. Du coup, est-ce que cet esprit révolutionnaire des Lumières touche le peuple et si oui, comment ?
Alors c'est vrai que les masses paysannes et ouvrières incultes n'ont pas accès à ces nouveautés. Mais il faut rappeler que leur rôle dans la Révolution n'est que secondaire, que seules les élites bourgeoises vont jouer un rôle de premier plan dans les événements majeurs de la Révolution. Finalement, le peuple, en effet très largement analphabète, n'a qu'un rôle d'exécutant lors des épreuves de force, comme nous le verrons plus tard. En revanche, les élites plus cultivées de la société vont recevoir ces idées nouvelles. On parle là des élites surtout urbaines du tiers-état. Les professions libérales, comme les médecins, les avocats, les hommes de loi en général, les bourgeois commerçants et les industriels, les actionnaires des grandes compagnies, les grands fermiers généraux qui fournissent les armées, bon, etc. D'ailleurs, la très grande majorité des penseurs politiques du XVIIIe siècle, les Lumières, sont issus de ces milieux bourgeois précisément. De nombreux écrivains de la fin du XVIIIe siècle contribuent à diffuser les idées des Lumières. Citons par exemple Mably, qui produit des synthèses des diverses doctrines politiques comme l'idée de la mise en place d'une, entre guillemets, monarchie républicaine, et qui s'inspire là de Montesquieu. Le pouvoir exécutif serait, selon ses idées, soumis au législatif.
Ce serait une idée à creuser, même à l'heure de la Ve République.
On peut citer aussi Condorcet, qui est un théoricien des droits de l'homme. Et tous ces ouvrages-là sont très très lus. Les journaux jouent aussi un rôle important, car ils sont très influents et se répandent partout rapidement. Les plus connus sont Rivarol et Linguet. Et n'oublions pas les journaux clandestins, les brochures et les pamphlets, qui sont de plus en plus nombreux et vindicatifs. On a aussi de plus en plus de clubs qui véhiculent les idées humanistes comme la Société des Amis des Noirs, montée par Brissot. Il existe encore des sociétés de lecture en province. Les loges maçonniques qui se multiplient et qui recrutent dans tous ces milieux jouent aussi un rôle important. Enfin, on peut citer la mode nouvelle des salons qui se réunissent chez des progressistes de la haute société, mécènes des grands philosophes de l'époque. Ces salons permettent le brassage des idées et leur diffusion, comme l'atteste cette lettre écrite par Alessandro Beccaria en 1766, frère d'un célèbre philosophe italien, Cesare Beccaria.
Le salon, un lieu attirant. Les maisons que je fréquente sont celles-ci. baron d'Holbach, mademoiselle de l'Espinasse, chez qui je rencontre toujours d'Alembert. Madame Necker, la comtesse de Boufflers, l'ambassadeur du Portugal. On est parfaitement bien partout. On mange divinement. On parle beaucoup. On raisonne comme on peut. Mais le ton est toujours courtois. Quant à d'Alembert, il me semble le plus grand et le meilleur de tous les philosophes. C'est un ange dans la conversation.
D'après une lettre d'Alessandro Beccaria à Pietro Verri, le 27 octobre 1766.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas, 107 FM. Oui, donc on voit bien comment les idées des Lumières, qui luttent à la fois contre l'absolutisme et l'obscurantisme religieux, progressent. Mais ces idées suffisent-elles à expliquer le renversement de l'Ancien Régime ?
Non, il y a eu d'autres influences. Et la plus importante vient de l'étranger, de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, bien sûr. Il s'agit de la Révolution américaine dont nous avons déjà parlé lors d'un précédent clin d'œil. On y avait d'ailleurs vu que les Français, notamment le général Lafayette, avaient pris une part active dans la guerre d'indépendance américaine. Et donc, cela a eu forcément un retentissement dans l'opinion.
Oui, et ce principalement pour deux raisons. D'abord, voir l'ennemi anglais perdre le contrôle de ses principales colonies en Amérique du Nord avait naturellement quelque chose de jouissif pour les Français. Et puis, les aventures de Lafayette, de Dillon et de Custine ont enthousiasmé les foules. La publication solennelle d'une déclaration des droits n'a pas non plus laissé indifférents ces Français en quête de liberté. Si l'on continue en France de respecter le roi de France, ce n'est plus le cas de la noblesse. Le peuple réclame de plus en plus une réforme de l'État que celui-ci n'est plus en mesure d'accomplir, notamment parce que les difficultés financières s'accumulent durant la décennie 1780.
Et la guerre d'indépendance a aussi participé à l'augmentation du déficit budgétaire du royaume de France. Bon, on estime que cette guerre américaine a coûté 1 milliard de livres à la couronne. Mais est-ce que cela suffit à expliquer les difficultés financières du gouvernement ? On peut peut-être en dire deux mots.
La France a besoin, dans la décennie 1780, de réformes et de faire entrer de l'argent dans les caisses. Et le seul à pouvoir répondre à ces deux missions semble être Jacques Necker, si on le prononce à la Suisse, Jacques Necker, si on le prononce à la française, qui est nommé ministre des Finances en 1776. Il engage des réformes, notamment dans les domaines administratifs, social et économique. Cet antilibéral encourage l'intervention de l'État. Et il écrit d'ailleurs, je cite, « C'est au gouvernement, interprète et dépositaire de l'harmonie sociale, c'est à lui de faire pour cette classe déshéritée tout ce que l'ordre et la justice permettent. » Ce volet de réforme qu'il souhaite mener le rend très populaire au sein des masses, mais déchaîne ses nombreux ennemis, parmi lesquels on compte les grands financiers, les fermiers généraux, la cour du roi et jusqu'à la noblesse de sang, qui vit mal la diminution des subsides qui leur étaient alloués. Victime d'une véritable cabale au printemps 1781, il perd le soutien de Louis XVI et doit démissionner. Ses successeurs, comme Calonne, changent radicalement de politique. Pour continuer à emprunter de l'argent et ainsi continuer à financer la guerre en Amérique, ce dernier simule la prospérité de l'État pour rassurer les créanciers et diminuer les taux d'intérêt. Autrement dit, il augmente les dépenses et le déficit explose. À l'approche de la fin des années 1780, la création d'un nouvel impôt semble donc inéluctable pour éponger les dettes. Ce qui provoque une énorme colère. En 1788, Necker est rappelé en catastrophe pour tenter d'échapper à la banqueroute.
Donc en 1788, la seule solution, c'est de créer un impôt. C'est ce qui va décider Necker ?
Ben, il n'a pas trop le choix. Le problème, c'est que les Français non plus n'ont pas d'argent. Le pays subit une crise économique sévère due aux mauvaises récoltes qui s'accumulent au cours de la décennie. Et il semblerait que cette crise économique ait aussi une origine venant d'au-delà les frontières européennes.
C'est-à-dire que ça vient encore d'Amérique ?
Non, d'Islande. Mais les Islandais n'y sont pour rien. Nous sommes le 8 juin 1783.
Après une terrible explosion, partant du volcan Laki, une faille gigantesque de 30 km apparut. 110 volcans alignés se mirent à cracher des fontaines de lave d'une hauteur de 800 à 1400 mètres. Ce flot de lave, le plus gigantesque des temps historiques, couvrit durant 8 mois une surface de 550 km², détruisant tout sur son passage. On estime qu'une quantité phénoménale de 122 millions de tonnes de gaz sulfurique et carbonique fut émise par ces bouches infernales. Suivant les caprices d'un vent de nord-ouest, ce nuage délétère recouvrit une grande partie de l'Europe. Il fut même aperçu en Chine et en Amérique du Nord. Comble de malchance, l'éruption simultanée d'un volcan au Japon eut comme conséquence que pratiquement tout l'hémisphère nord fut recouvert d'une couche de gaz et de poussière éjectée à plus de 15 000 mètres d'altitude par les deux éruptions.
Partout sur le continent se répand alors un épais brouillard sulfuré qui provoque des milliers de morts durant l'année 1783 et l'hiver 1784, et donne une vision apocalyptique à tous les habitants qui virent alors le ciel se voiler et un soleil, je cite, « couleur sang ». Ce brouillard chauffé par le soleil d'été a causé de violents orages avec d'importantes chutes de grêle, tuant le bétail jusqu'à l'automne. Des températures anormalement basses sont mesurées, notamment par l'américain Benjamin Franklin, qui séjourne alors en Europe. À partir de 1784, les années de disette se succèdent et ce sont les paysans qui en paient les frais. L'ancien ministre Malesherbes écrit dans ses notes personnelles à ce propos.
L'hiver de 1783-84 était d'une rigueur épouvantable. Les églises, les ateliers, les lieux publics étaient fermés. Paris semblait désert. On ne rencontrait plus personne dans les rues. Les riches étaient réduits à brûler leurs meubles pour se chauffer. Les pauvres mouraient de froid dans leur grenier. La charité même était impuissante. La cassette du roi était épuisée.
À Paris, on enregistre des températures de moins 19. Des blocs de glace sont présents dans la Seine dès le 15 décembre et elles gèlent pendant 8 jours début février. Mais l'été suivant, les moissons sont excellentes, ce qui provoque paradoxalement une chute des prix des produits agricoles et l'appauvrissement des campagnes. Et puis, pour ne rien arranger, le tout est suivi d'épisodes de sécheresse, de mauvais hivers ou étés, de violents orages de grêle en 1788 qui détruisent les récoltes, etc. etc. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107FM. On comprend bien. Donc, ce dérèglement climatique accentue la précarité des plus faibles et provoque leur colère. C'est le terreau idéal pour une révolution. Bien évidemment, nous ne ferons aucun parallèle avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais à quel point la situation était-elle explosive dans la France profonde ?
Nous disposons pour le mesurer du témoignage d'un agronome anglais venu en France pour voir l'état de la paysannerie française. Il a tout consigné dans son journal de bord, dont voici un extrait.
17 octobre 1787. Dîner aujourd'hui avec une compagnie dont la conversation fut entièrement politique. Dans toute l'assemblée, l'opinion prévalait qu'on est à la veille d'une grande révolution dans le gouvernement, que tout le manifeste avec un déficit impossible à combler sans les états généraux du royaume, aucune idée précise sur ce que serait le résultat de leur réunion. Sur le trône, un prince animé d'excellentes intentions, mais dépourvu de ressources intellectuelles nécessaires pour gouverner lui-même en un tel moment. Une cour abîmée dans les plaisirs et la dépravation, aggravant la détresse, au lieu de se consacrer à rechercher une position plus indépendante. Une grande fermentation dans tous les rangs de la société, avide de changement, sans savoir que chercher ou que désirer. Un grand levain de liberté qui s'accroît d'heure en heure après la révolution américaine. Tout cela forme une conjoncture qui annonce une grande fermentation et une grande agitation.
C'était donc un extrait de Arthur Young, Voyage en France, premier voyage, paru en 1792. Oui, donc en effet, on mesure bien là le ras-le-bol ambiant et même un début de défiance vis-à-vis du roi et du gouvernement. Mais revenons à cette année 1788, marquée par le retour de Necker aux finances. Que fait-il pour pouvoir rétablir cette situation économique catastrophique ?
Mais il n'a plus vraiment le choix. Alors que lors de son premier ministère, il avait tout fait pour éviter la création d'un nouvel impôt, fort est de constater que désormais, le déficit est tel que c'est devenu la seule solution. Et pour cela, il est obligé de convoquer les états généraux, une première depuis 1614.
Ces fameux états généraux, on en a tous déjà entendu parler, mais peux-tu quand même nous rappeler rapidement de quoi est composée cette institution et comment elle fonctionne ?
Dans le principe, les états généraux servent, comme on l'a dit, à valider la création d'un nouvel impôt. Mais c'est du donnant-donnant. Contre le fait d'accepter de verser plus d'argent à l'État, les Français peuvent émettre des revendications, des doléances, qui sont enregistrées dans des cahiers par des représentants élus partout en France, par les membres des différents États de la société française. Puis, lors d'une assemblée plénière, ces points sont discutés, négociés, puis un vote a lieu pour entériner les décisions prises. Mais sachant que les trois ordres comptent chacun pour une voix, en général ce sont les privilégiés, noblesse et clergé, qui ne représentent, je rappelle, que 2% de la population, qui l'emportent. Ce système encourage donc une politique conservatrice et maintient une grande inégalité au sein de la population française. Cependant, petite nouveauté introduite par Necker le 27 décembre 1788, le nombre de députés du tiers-état est doublé, ce qui en fait ne change pas grand-chose puisque le tiers-état continue de ne compter que pour une voix.
C'est donc dans ce contexte que dans l'hiver 1789, les députés des trois ordres fraîchement élus parcourent leur circonscription pour recueillir les doléances de leurs électeurs. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces fameux cahiers ?
Alors, je vous propose de lire des courts extraits des trois cahiers de doléances, un pour chaque état. Mais sachez que l'on a conservé de nombreux cahiers de doléances. Par exemple, aux archives départementales de la Lozère, nous en avons un excellent état, notamment les cahiers de doléances du tiers état de Bar-des-Cévennes, pour ne citer que celui-là.
Extrait du cahier de doléances du clergé de Nîmes. Article 9.
Qu'il plaise au roi de protéger les propriétés de l'église, et notamment les dîmes.
Article 14.
Que le roi continue d'accorder sa protection aux ordres religieux, si utile à l'Église, et qu'il veuille bien dissiper les alarmes et inquiétudes où ils peuvent être sur leurs états.
Un autre extrait du cahier de doléances du tiers-état du Gévaudan. Article 3.
Que les points principaux de cette constitution seront, numéro 1, que nul impôt ne pourra être établi, prorogé ou augmenté sans aucun prétexte que de l'express consentement des états généraux. Numéro 4. Que la nation ne sera soumise qu'aux lois qui auront été convenues entre elles et le souverain. Numéro 6. La liberté individuelle de tous les sujets du roi et la suppression des lettres de cachet. Numéro 8. La liberté de la presse avec tel règlement que la sagesse des États trouvera à propos de déterminer. Numéro 9. Que les impôts créés et à créer seront également répartis et sur les personnes et sur les biens, tout privilège à cet égard demeurant supprimé, et que la perception en sera la même pour tous les ordres indistinctement.
Article 10.
Que la gabelle sera supprimée comme un impôt également onéreux au peuple et préjudiciable tant à l'agriculture qu'au commerce.
Article 61.
Qu'il sera donné aux campagnes quelques secours pour faire des chemins de communication avec les villes, afin que le débit des denrées soit moins difficile pour les habitants.
Nous comprenons donc les revendications de chacun des trois camps. Les ordres privilégiés veulent conserver leurs avantages et que le roi les défende, tandis que le tiers-état souhaite des changements radicaux dans les domaines fiscaux, religieux, politiques et commerciaux. Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Barthas 107 FM. Les cahiers de doléances portés par les députés remontent donc à Versailles, où doit avoir lieu cette grande assemblée des états généraux qui s'ouvre le 5 mai 1789 dans la grande salle de réception du palais. La salle des menus plaisirs. Nous avons en Lozère, dans les archives, un témoignage de première main de Jean-Joseph-Marie Ignon, secrétaire du député du clergé du Vivier et qui assiste à ces réunions d'ouverture. Écoutez ça.
Un maître de cérémonie chargé de désigner les places à chaque ordre, on avait pris ce parti pour éviter des concertations entre les ordres, dit à Monseigneur de se placer parmi les évêques, selon son rang de sacre. Nous conduisit Monseigneur Chouzet, curé de Chaméras, et moi, comme député du clergé, aux banquettes du clergé qui était à la droite du trône où devait se mettre le roi. Messieurs les comtes de Voguet et d'Entraigues, députés de la noblesse aux banquettes de la noblesse vis-à-vis de celle-ci du clergé à gauche du roi. Messieurs Espic, Madrier, de Montjean, Dubois-Morin et de Française, députés du tiers-état aux banquettes du tiers-état placés au fond de la salle faisant face au trône. En attendant l'arrivée du roi et après s'être remis de mes fatigues, j'ai considéré la salle dont les décorations sont fort belles. Un rang de colonnes et de pilastres, de bois peint en cannelé, de manière à s'y méprendre, formait de chaque côté un péristyle où l'on avait dressé des banquettes en manière de gradins qui occupaient des personnes entrées par billets. Là étaient rassemblées des jeunes beautés assises dans le genre du plus nouveau, auprès desquelles l'on voyait de jeunes cavaliers sur un même ton empressé de leur faire la cour. Tout le monde attendait avec impatience l'arrivée du roi. Le trône de sa majesté était placé sous un magnifique dais de velours violet semé de fleurs de lys d'or, à côté duquel était un fauteuil pour la reine. À la droite du roi étaient des banquettes pour la famille royale et les princes de sang. Dès qu'on annonça l'arrivée du roi, tout le monde parut en montrer sa satisfaction Et dès qu'il entra, on entendit de toutes parts des cris de « Vive le roi ! Vive le roi !» et des applaudissements.
Ces états généraux s'ouvrent donc sous de bons auspices. À ce moment-là, même si la colère gronde, malgré les difficultés économiques, un vent d'espoir souffle en France. Tous espèrent que la situation va s'améliorer au terme de ces états généraux. Nul n'envisage sérieusement de mettre fin à l'ancien régime, et encore moins de renverser le roi qui garde une opinion favorable au sein de la population.
Dans le prochain épisode de Clin d'œil à l'histoire, nous verrons de quelle manière la situation dégénère à la suite de ces états généraux et comment l'été 1789 a renversé l'ancien régime.
À la lecture, Nicolas Fischer. C'était Clin d'œil à l'histoire, les prémices de la Révolution française. Une émission préparée par Raphaël
et Ben
sur Radio Bartas, 107 FM.